et bienvenue. Comme un bruit qui court, c'est sur France Inter, des reportages, des voyages et un éclairage critique pour ne pas chercher ses clés sous le lampadaire.
Au sommaire de cette semaine, désindustrialisez vos vacances, dénucléarisez votre énergie et déménagez en Lozère. Mais n'oubliez pas vos papiers.
Comme un bruit qui court, en direct du studio 611 de la Maison de la Radio, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assisté de Karen Dehaye, avec à la technique aujourd'hui Bertrand Durand et Jean-Noël Vélan.
Very nice, yeah, spectacular, yeah.
Qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des gens bah, comme vous et moi, qui ont des enfants, qui ont envie de travailler, qui ont envie de vivre normalement. Et à partir de là, le village s'est mobilisé.
Nous sommes en train de changer de monde. Le salon sur le... C'est un salon sur le passé.
Oubliez le voyage comme invitation à vous rendre disponible, ouvert aux autres, aux découvertes. Aujourd'hui, à l'ère du capitalisme mondialisé, c'est un monde standardisé et aseptisé que nous visitons. Démonstration pratique dans un instant, au pied de la Tour Eiffel. Et pendant que les touristes insouciants se payent un peu de bon temps, un peu de romantisme de pacotille, d'authenticité bradée à 10 euros les trois bibelots, le Gotha de l'industrie nucléaire se retrouve, lui, au Bourget pour le World Nuclear Exhibition, le premier salon mondial du nucléaire. Ici, le sourire est de mise. Même si à l'ère post-Fukushima, quand les joyeux nucléocrates parlent d'un avenir radieux, les mauvais esprits pensent à venir irradier. Mais chut, la filière rapporte gros. Vous ne voudriez quand même pas plomber un secteur qui emploie. Allons donc. Et pour ceux qui ne seraient pas tout à fait convaincus par ce bel avenir promis par la filière du nucléaire, rassurez-vous, il reste la Lozère. Là-bas aussi, on vous propose un air pur et un avenir ensoleillé. Car dans ce département rural, le moins peuplé de France, on cherche à tout prix à attirer de nouveaux habitants. Alors forcément, quand le préfet refuse d'accorder un titre de séjour à quelques familles qui ne demandent qu'à rester, les habitants consternés se mobilisent.
Antoine Chao,
Charlotte Berry,
Yvonne.
Comme un bruit.
Tu dors, Paul ?
Regardez les oiseaux.
Les vacances ont déjà commencé et comme un bruit qui court veut être en phase avec ses auditeurs, avec des sujets concernant vacances, voyages, tourisme. On a vanté la découverte du monde et le voyage pendant des décennies et voilà que de plus en plus de voix protestent contre la standardisation des destinations. Nicolas Bouvier avait donné comme titre de son livre culte d'écrivain voyageur « L'usage du monde ». Mais c'est l'usure du monde que décrit Rodolphe Christin, notre guide aujourd'hui. L'usure du monde ou comment l'industrie du tourisme de masse transforme petit à petit des pans entiers de la réalité en parcs à thème, en chassant les autochtones pour faire venir toujours plus de visiteurs dans des lieux stéréotypés. Alors avant qu'il ne soit trop tard, partons avec Rodolphe Christin et sa critique de la raison des raisons touristiques en poche. À nous le rêve, à nous l'exotisme, en route vers la Tour Eiffel.
Paris, Mascat, Katmandou, Chiang Mai, Singapour, Bali, Sydney.
Et pour 74 000 francs, tout est prévu.
Oui, tout est prévu. Et Orlando.
Tunisie à partir de 2330 francs.
Alors
hein? Les Français n'ont pas fini d'aimer le monde.
Ok, mesdames et messieurs, bonjour. Alright, so good, ça va? Right now, ladies and gentlemen, we're gonna start the show. On va danser pour vous, mesdames et messieurs, we're gonna dance for you. Ok?
Non, c'est beau, on est accueillis en musique. Il fait beau. Une des plus belles vues de Paris. Vraiment sous les arches de la Tour Eiffel. Bon, bien sûr, il y a la boutique officielle. Il y a le marchand de hot dog. Il y a le marchand de hot drinks. Et le distributeur. Tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances. Rodolphe Christin.
Oui, ce sont des schémas de spots où il va y avoir un élément fort qui va être distinctif, comme la Tour Eiffel, comme l'Arc de Triomphe, comme les pyramides d'Égypte, et autour desquels on va organiser une panoplie de prestations qui, effectivement, sont identiques où qu'on soit. Et du coup, on est dans des espèces de paradis artificiels où, effectivement, on cherche à oublier son quotidien. Enfin, le tourisme, je crois, est une forme de stérilisation de la diversité des lieux, quand même. parce que finalement, tous ces lieux-là se ressemblent où qu'on soit, même s'il y a la tour Eiffel qui, elle, est unique. Tout l'environnement construit, élaboré autour pour rentabiliser, mettre en production le site, et lui, parfaitement reconnaissable où qu'on soit.
Mais comme c'est de regarder, ce couple-là, ils se prennent une photo chacun à leur tour, parce qu'ils n'arrivent pas à être les deux ensemble sur la photo.
Oui, l'important, c'est de montrer qu'on y était, qu'on y est allé, et qu'on va pouvoir démontrer qu'on a vu ce qu'il fallait voir, surtout.
Et pour 74 000 francs, tout est prévu.
Oui, tout est prévu. Excursion, dîner, spectacle, le rêve en plus.
Surfez, cliquez, partez.
Pendant qu'on dit ça, il y a un groupe là qui arrive. Ils ont tous un petit autocollant rose sur le revers. Ils marchent d'un pas assez vif pour aller prendre leur place dans la queue.
Sur des lieux comme ça, la réalité rejoint la caricature, on vous dira. On est sur des logiques parfaitement représentatives.
C'est ça le tourisme.
Voilà, on part à l'aventure et on reste bloqué 2 heures dans une file d'attente pour oublier son quotidien de salarié surstressé. On n'a qu'à regarder ici autour de nous.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Bah, on va leur demander. Hello, where do you come from?
Holland, Netherlands.
Yeah. It's your first time in Paris?
Yes, we went to our Disney.
Euro Disney.
But it was a lot of days we had in Euro Disney, so we went one day to Paris.
Ah d'accord, vous êtes venu en voyage. Pas à Paris, mais à Euro Disney. Et cette visite à Paris, c'est une excursion dans votre séjour à Euro Disney.
Oui, we started by Montmartre.
Montmartre, avant ça.
Champs-Élysées.
Champs-Élysées.
Eiffeltoren.
La Tour Eiffel.
Maybe the Notre Dame.
All in one day.
Yes, in one day.
Tout ça en une journée.
Yeah. So that they know what Paris have to bring to you. Yeah.
Voilà, c'est ça, c'est les images de Paris que vous allez garder dans votre album. Après, vous aurez fait votre journée à Paris avec la Tour Eiffel.
Yeah, very nice. Yeah, spectacular. Yeah.
Mais ce soir, vous retournez chez Mickey.
Yeah. Thank you.
Rien que d'y penser, ça fait rêver. Disneyland Paris.
Bon bah, c'est pas mal comme résumé, Rodolphe Christin.
Oui, c'est le symbole aussi de la Disneylandisation du monde, c'est-à-dire du monde touristique qui devient un immense parc d'attractions où l'on cherche d'abord à se divertir plutôt qu'à découvrir.
Alors, on pourrait dire à la rigueur, oui, mais ça, c'est des considérations d'esthètes ou de personnes qui veulent l'authentique pour à tout prix se distinguer. Mais n'empêche que ce que vous pointez aussi, c'est les dégâts considérables de cette industrie. C'est pas juste un appauvrissement de l'expérience, mais c'est aussi des ravages du tourisme.
Le tourisme, effectivement, transforme les espaces en profondeur. Donc c'est écologiquement déjà, on sait que l'industrie touristique repose quand même sur une dépense énergétique importante. L'activité touristique a une empreinte écologique forte. C'est aussi déstructurant pour les sociétés locales. Alors ici, la société locale, je ne sais plus où elle n'existe plus. Mais si on prend par exemple une ville comme Venise, on sait que la vie est devenue tellement infernale qu'il y a un mouvement d'exode démographique, c'est-à-dire que la ville se vide de ses indigènes entre guillemets. D'une part parce que les prix ont monté et les loyers sont devenus inabordables. Et d'autre part, on a un rapport d'environ un indigène pour 350 touristes. Donc ce sont des lieux qui sont vidés de leurs particularités locales. Des gens qui font la vie de ces lieux-là disparaissent progressivement pour laisser la place à une population qui est exclusivement touristique.
Italia.
Veniamo da Mantova.
De Mantoue en Italie. Première fois à Paris.
Si.
C'est le premier jour.
Siamo venuti a visitare la Tour Eiffel per il primo giorno.
Tour Eiffel, premier jour. Comment est?
Bella.
Molto grande.
Molto grande, c'est très grand. Bon bah alors profitez bien.
Grazie.
Bonjour, vous êtes des touristes?
Ça se voit tant que ça.
Bah, je vois ça parce que vous avez des frites et du coca et un hot dog.
Il n'y a pas trop de monde là, c'est agréable.
Alors, le tourisme, en fait, il est contemporain de l'avènement du capitalisme. Le tourisme a besoin de technologies suffisamment fiables et efficaces. Il a besoin aussi du salariat et des congés payés, parce que le tourisme s'est développé sur cet espace libre et qu'il s'agissait de rentabiliser, pour ainsi dire. Et il y a eu toute une idéologie autour de ça qui a valorisé le voyage pour le voyage, et le voyage d'agrément, et ça a marché, et ça marche. On est bien placé pour le vérifier ici. Et quand un pays accède aux standards de vie des pays développés, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des touristes à l'assaut du monde. En fait, je crois que le tourisme C'est pas du tout une logique de découverte, ni même d'exploration, encore moins. On rejoint vraiment une logique de planification, de rentabilité, de mise en production d'une expérience, c'est-à-dire qu'il faut en faire le maximum dans un minimum de temps, dans une logique d'efficience, hein, comme parlent les managers.
Voilà, le langage marketing parle pour tout ce que vous dites, là, de ce qui est normalement prévu pour être la déconnexion coupée du train-train quotidien, et vous êtes en train de me décrire une chaîne de production avec le service marketing, le service financier, le service gestion du personnel.
Voilà, tout à fait. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a toute une ingénierie des lieux touristiques. Si on avait accès à toute l'organisation du site ici, on aurait vraiment le sentiment d'être un pion parmi d'autres pions. Ou d'être, oui, dans une usine de production dont les objets seraient finalement les touristes.
Ah, je vous coupe deux secondes, là je vois les marchands de Tour Eiffel qui s'en vont en courant parce qu'il y a une patrouille de police qui s'approche.
D'accord.
On avait dit le club méditerranéen, vous allez voir, ça devrait vous plaire. Négatif. Les gens disent n'importe quoi.
Papa, le poisson, il respire plus.
Mais c'est normal, ça, les poissons, ils en respirent jamais, un peu.
Maman, papa, il a tué le poisson.
Non, il est pas très bien pour ça, hein. T'as gagné, t'es content? Voilà, je le prends, je le fous là-bas et le poisson ne me parle plus. Ouais, nage sur le dos, il est content. Rentre chez lui, à la maison, ça va? Ok?
Moi aussi, je veux rentrer à la maison.
Tu me gonfles!
What I need is you. Oh.
Tell me, baby, do you love as hard as I do?
Bella.
Is there a lightning striking inside of you?
Vorrei fare proprio il primo giorno.
Molto grande.
Bang, bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it.
Après l'usage du monde, l'usure du monde. En tout cas, on vous avait prévenu, si vous allez à Barcelone, par exemple, pour votre prochaine vacances, attention peut-être aux manifestations de riverains qui s'organisent contre les hordes de touristes et les dégâts sur la vie quotidienne. En tout cas, l'usure du monde, c'est le titre de son livre de Rodolphe Christin, je disais, critique de la déraison touristique que vous pouvez retrouver aux éditions de L'Échappée.
Comme un bruit qui court.
Le WNE, le Salon Mondial du Nucléaire, plutôt le World Nuclear Exhibition, en anglais s'il vous plaît, il faut savoir s'exporter, c'était cette semaine au Bourget. Alors que l'Assemblée nationale adoptait, en première lecture, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui stipule que la politique énergétique nationale a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation énergétique finale et la consommation des énergies fossiles primaires, d'augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique et de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% aujourd'hui à 50% à l'horizon 2025. Voilà qui concerne très directement les exposants du WNE, vitrine internationale de notre industrie nucléaire qui cherche un second souffle post-Fukushima.
Bienvenue au tout premier salon international du nucléaire, le WNE. Le World Nuclear Exhibition.
Il est temps de tirer des leçons de Tchernobyl et de Fukushima. Il est temps que les citoyens se rebellent contre le pouvoir nucléaire. Relevez-nous.
Et il s'agit bien aujourd'hui d'exhibition, mesdames et messieurs. Vous êtes ici dans l'antre du nucléaire. Si vous aimez le progrès, la croissance, le nucléaire et les bifetons, vous êtes les bienvenus. Mais seulement si vous êtes invité.
Alors on est gare du Bourget, et donc c'est l'ouverture du Salon Mondial du Nucléaire.
Le World Nuclear Exhibition, premier salon international de la filière nucléaire.
donc organisée par l'AIFEN. Donc c'est l'association des Français exportateurs de nucléaire, donc qui s'est constituée en juillet 2013 avec pour but principal l'organisation de ce WNE qui devrait être une biennale, donc qui devrait s'organiser tous les deux ans.
Et aujourd'hui, donc hasard du calendrier peut-être, c'est donc le vote à l'Assemblée, la loi de transition énergétique et de croissance verte.
Exactement.
Notre pays est fortement tributaire de l'atome. Pour produire de l'électricité, aujourd'hui, nous dépendons à 75% du nucléaire, à 15% des énergies renouvelables, à 10% du thermique, c'est-à-dire des énergies fossiles.
La décision récemment votée de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% d'ici à 2025, une réduction très progressive et timide selon les antinucléaires, ne s'est pas faite sans opposition, signe que notre histoire passionnelle du nucléaire n'est pas finie.
Filière nucléaire égale mafia d'enfer. Ici s'organise la contamination radioactive du monde. Alors c'est des petits autocollants qui sont collés ici sur la gare du Bourget. Oh bah, c'est pas très accueillant ça pour les ingénieurs du nucléaire du monde entier qui vont se bousculer ici pour acheter du nucléaire français, du prestigieux nucléaire français. Donc vraiment, il y en a qui ne savent pas accueillir. Hein. Si c'est ça, la croissance verte, ça démarre mal. Hein. Voilà, c'est la navette du WNE, du World Nuclear Exhibition, qui vient d'arriver. Vous attendez quoi de ce salon ?
De voir un peu ce qui se fait au niveau du nucléaire mondial, de présenter un peu notre compagnie et de voir un peu les attentes du marché. Comme dans toutes les sources d'énergie, il y a de l'avenir. Maintenant, elle est plus mitigée qu'avant 2011, elle est plus mitigée qu'avant les gaz de schiste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ça va continuer à se développer.
Vous êtes confiant ?
Oui.
C'est quand même un lieu de rencontre privilégié avec tous les acteurs du nucléaire et mondiaux. Alors, la tendance, on va dire, des marchés européens aujourd'hui, elle est quand même très accès nucléaire, hein, en tout cas en France. Donc voilà, on va prendre un petit peu la température, rencontrer les acteurs qui sont à mon avis les acteurs majeurs du nucléaire. Voilà.
Et le fait que ce salon se tienne le jour même où se vote à l'Assemblée la loi de transition énergétique, vous pensez que c'est un signe ?
Pour valider le mix énergétique à l'horizon 2025, c'est ça ?
Tout à fait.
Je pense que si la population française continue à grandir comme elle grandit aujourd'hui, et tant mieux, hein, à la limite, parce qu'on a quand même une forte natalité en France, on atteindra peut-être de facto le mix énergétique à l'horizon 2025 sans rien faire, non ? Sans fermer de centrale, sans rien faire ?
Oui, donc ça ne pose aucun problème, il n'y a pas d'entrave.
Très honnêtement, non.
Assemblée nationale.
Mes chers collègues, la séance est ouverte. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Votants 565, suffrages exprimés 533, majorité absolue 267, pour 314, contre 219, l'Assemblée nationale a adopté. La parole est à Madame Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, je crois que nous venons de vivre un grand moment par l'adoption de cette loi de transition énergétique pour la croissance verte que le Premier ministre avait désigné comme un moment fort de ce quinquennat.
Je suis Michael Schneider, je suis consultant indépendant international dans les domaines de l'énergie et de la politique nucléaire.
Michael Schneider, comment se fait-il qu'aujourd'hui la France se retrouve être leader mondial du nucléaire avec EDF, premier exploitant nucléaire au monde, Areva, premier fournisseur d'uranium au monde?
Oui, c'est vrai, leader en dinosaure, on peut dire. Enfin, c'est vraiment une longue histoire, mais je pense que les conditions du développement du nucléaire étaient uniques comparées à d'autres pays. Cette technologie convient très bien à un système politique extrêmement centralisé, où la politique est dessinée, contrôlée par le même groupe de technocrates d'élite. C'est quand même remarquable. Nous fêtons aujourd'hui les 40 ans du programme MESMER le premier grand programme nucléaire français de 1974, qui était une réaction à la crise de pétrole de 1973. C'est stupéfiant avec quelle continuité on a développé ce programme, droite ou gauche, quels que soient les premiers ministres ou les présidents de la République, il y a eu une continuité totale. Mais ce n'est pas un programme qui a été voté à l'Assemblée, c'était une décision gouvernementale. Même le débat qu'avait promis François Mitterrand quand il est arrivé en 1981, ça durait 8 ans et il y avait 24 députés ou 26. J'étais dans la salle, j'avais compté à l'époque pour débattre de l'avenir énergétique de la France. Et pourquoi il n'y avait pas plus de députés? Parce qu'ils comprennent très bien qu'ils n'avaient aucun rôle à jouer. C'était la décision. Les décisions sur ce sujet-là ne sont pas faites à l'Assemblée. On l'a vu encore dans le débat sur le, ou on le voit dans le débat sur la loi énergétique. On s'attendait quand même à il y avait un petit espoir d'une reprise en main politique du nucléaire. Et on ne le voit pas encore vraiment, non, dans les débats. Enfin, c'est assez étonnant comme système de fonctionnement.
Bienvenue au tout premier salon international du nucléaire, le WNE, le World Nuclear Exhibition, au cours duquel les différents acteurs de la filière présentent leurs technologies à des clients, des experts ou des décideurs politiques. Notre objectif est de mener des réflexions multilatérales, de nouer des contacts et surtout, nous l'espérons, la signature de contrats. En effet, la situation financière de notre industrie électrique est loin d'être heureuse et prospère. Mais nous comptons sur les ménages français pour se sacrifier pour la France du nucléaire. Pour parer à la décrépitude économique de notre filière, nous avons trouvé une idée en 2013. Faire un salon international
du nucléaire. Le WNE, le World Nuclear Exhibition.
Mesdames et messieurs, vous êtes ici dans l'antre du nucléaire.
Valérie Giscard d'Estaing, spécial invité d'honneur de ce Salon mondial du nucléaire, et pour cause, ça a été quand même un des grands promoteurs de la filière nucléaire française. Là, c'est Valérie Giscard d'Estaing qui prend la parole. On parle de dinosaures.
Bonjour.
Tout le temps, j'ai considéré que la production et la distribution d'électricité étaient au cœur du progrès industriel de nos sociétés. Comme l'écriture l'est à la littérature.
Les prix du pétrole brut ont été multipliés par 4 en quelques mois. Il fallait donc imaginer un grand plan.
C'est toujours Valéry Giscard d'Estaing,
de production énergétique,
à la tribune,
qui assure la sécurité de notre production électrique et notre indépendance nationale.
Michael Schneider, vous parlez de dinosaures aujourd'hui quand l'industrie, les fleurons de l'industrie nucléaire française ou de la filière nucléaire organisent un salon mondial du nucléaire.
Quand on voit que les coûts du kilowattheure nucléaire, selon la Cour des comptes, ont augmenté de 16% en 3 ans, alors que les coûts des décentralisés et notamment du photovoltaïque ont chuté de 80%. En 7 ans, quand on voit que les prix d'EDF doivent augmenter afin de couvrir les frais, puisque EDF a perdu de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en 2012, quand on voit que la Commission européenne qui vient de donner feu vert au gouvernement anglais pour donner des subventions, j'allais dire hallucinantes, mais étonnantes pour le moins, pour un projet d'EDF en Angleterre.
Deux EPR, hein, c'est
exactement
ça.
Exactement, la construction de deux EPR, à des prix dont on n'a jamais entendu parler, enfin, des ordres de grandeur qui sont très étonnants. mais que la bourse, en réaction à ça, n'a pas du tout réagi avec un envol du cours d'EDF. En fait, le cours d'EDF est en baisse et les cours d'Areva plongent. C'est un panorama, si vous voulez. Il y a plein de signaux comme ça. Et comme réaction, la France fait un grand salon sur le nucléaire. Ça paraît vraiment orienté vers le passé plutôt que d'être orienté vers l'avenir, qui est très clairement une orientation vers des systèmes beaucoup plus décentralisés. On voit maintenant dans beaucoup de pays un changement de logique d'un modèle qui est intégré verticalement, où des grandes centrales produisent de l'électricité, on le transporte sur des grandes distances et on le distribue à un consommateur, vers un système où on ne distingue plus entre producteur et consommateur, puisque le consommateur devient producteur. Donc il est à la fois producteur et consommateur. Parce que quand vous avez, comme en Allemagne maintenant, 1,4 million de producteurs d'électricité, comment est-ce que vous pouvez parler de producteur et de consommateur ? Donc on a ce virement vers une logique totalement différente qui se rapprochera de plus en plus à une logique de l'Internet. C'est-à-dire, on a des flux qui vont dans les deux sens, qui sont multidirectionnels, avec des nœuds de distribution et de réglage, mais selon une logique qui est parfaitement horizontale, qui n'est plus une logique verticalement intégrée. La révolution énergétique ne sera pas télévisée. Pour décrire la rapidité du changement énergétique, revolution will not be televised. Pour moi, le salon sur le nucléaire, c'est comme un salon sur le passé. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Revenons sur notre salon, le World Nuclear Exhibition. Comme vous pouvez le voir actuellement, nos lobbies énergétiques et industriels font un super boulot. L'énergie, c'est vos smartphones, jeunes gens, vos congélateurs, mesdames, vos voitures, messieurs, et pour nous, c'est notre capital. Et pour être assuré de pouvoir regarder la télé le samedi, il n'y a rien de tel qu'une bonne vieille centrale nucléaire.
Et là, c'est le stand du CEA. C'est le commissariat à l'énergie atomique.
C'est quoi vos questions? C'est sur quoi?
L'avenir de la filière nucléaire en France par rapport à la loi de transition énergétique qui est votée en ce moment à l'Assemblée.
Oui. Vous êtes? Je suis Xavier Clément, je suis le porte-parole du CEA. Il y a effectivement un avenir pour l'industrie nucléaire en France dans le cadre de ce renouvellement et y compris dans les choix qui sont gravés et qui vont être gravés dans la loi sur la transition énergétique.
Et donc pour vous, ce n'est pas contraignant donc, cette loi de transition énergétique?
Le maintien d'un parc, y compris à hauteur de 50% de la production d'électricité, nécessite de renouveler dans les 30 ans qui viennent la grande majorité des centrales nucléaires françaises. Donc il y a un vrai avenir en termes économiques et en termes d'emploi dans la filière nucléaire pour cette raison, et y compris dans le cadre de la loi sur la transition énergétique telle qu'elle est connue actuellement.
Donc vous êtes confiant pour la filière?
On est confiant dans le sens que c'est une filière qui est prometteuse d'emplois, de création de valeurs économiques, de postes pour des jeunes techniciens, des jeunes ingénieurs, dans des métiers de très haut niveau de technologie. Et je pense que dans le contexte actuel, on peut tous s'en réjouir en tant que citoyen.
Bernard Laponche, j'ai d'abord travaillé au CEA sur la physique des réacteurs nucléaires d'ailleurs pendant une douzaine d'années. Après j'ai été très actif et militant à la CFDT et même permanent. Et à cette époque-là, au début des années 70, j'ai vraiment changé d'avis sur la question nucléaire. J'ai pensé que c'était une technologie trop dangereuse. Et après j'ai travaillé professionnellement sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, puisque j'ai été directeur général de la FME, qui est l'ancêtre de l'ADEME, et ensuite avec l'association Global Chance, qui continue d'ailleurs à être active dans ce domaine.
Alors qu'est-ce que vous pensez donc du texte de loi de transition énergétique qui a été voté ?
D'une part, je pense qu'elle ne va pas assez loin sur cette notion de transition énergétique qui, pour nous, implique la sortie du nucléaire. On voit mal une transition énergétique réussir en gardant cette espèce de dinosaure issu d'une mentalité productiviste de la fin du 19e siècle. Je veux dire, c'est quand même assez grave, cette obsession française sur le nucléaire. L'autre façon de la juger, c'est de se dire, par rapport à la situation actuelle, par rapport aux forces politiques en présence, est-ce que cette loi représente un progrès ? Alors, il y a un progrès, qui n'est pas considérable, mais il y a un progrès en ce sens que, pour la première fois dans l'histoire, c'est l'objectif de réduction très important de la consommation d'énergie. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si la loi est appliquée, c'est quand même intéressant sur ce plan-là. Apparemment, la question de Fessenheim, alors le président de la République continue à dire qu'il n'y a pas de problème, on arrêtera Fessenheim. Cela dit, on s'approche de plus en plus de l'échéance, puisque c'était 2016. Ça, j'aimerais bien le voir. Donc là, il y a un point d'interrogation. Est-ce que l'engagement, qui est quand même pas très compliqué, je veux dire, arrêter une centrale, c'est pas grand-chose. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de calamiteux, même pour les pro-nucléaires. Et là, ça sera un peu la pierre de touche par rapport aux engagements. La contribution du nucléaire à l'énergie dans le monde et même à la production d'électricité diminue régulièrement. 18% au début des années 2000, et puis maintenant, c'est 10%. L'accident de Fukushima a quand même marqué les politiques des différents pays. Il y a beaucoup de pays qui prétendent qu'ils veulent faire du nucléaire. Très souvent, c'est parce qu'en fait, ils visent plus ou moins de posséder un jour l'armement nucléaire. Et là-dessus, la politique de la France, en particulier du CEA, est dramatiquement dangereuse quand on voit qu'on propose à des tas de pays qui sont dans des situations politique très incertaine et économique, pas brillante, de leur apporter sur un plateau des centrales nucléaires. Alors, en général, ça ne se fait pas. Et la France, qui avait beaucoup utilisé l'argument de l'exportation, on a dû vendre une dizaine de réacteurs nucléaires en bientôt 50 ans, ou 40 ans. Donc on ne peut pas dire que ça a été un succès de l'industrie française. L'industrie française a fait des réacteurs pour la France. Et elle en a fait beaucoup trop. En ayant trop, on exporte de l'électricité qui est considérée comme quelque chose de très intéressant. En fait, ce n'est pas intéressant du tout parce que ça ne rembourse même pas les investissements. Donc la stratégie industrielle nucléaire de la France, malgré tout les plumes de paon dont elle se pare, n'est pas du tout une réussite. Hein. On a fait plein en France, payé par les Français, mais le succès à l'extérieur n'a pas été au rendez-vous. Du point de vue de la stratégie économique et industrielle, ça a été une erreur, c'est-à-dire que ça a coûté extrêmement cher, ça a drainé l'épargne publique dans les années 70, et la France a pris du retard sur les autres investissements industriels, ce qui n'est jamais dit. On considère ce programme nucléaire comme une merveille. En fait, on aurait dû en faire la moitié. C'est très grave, parce qu'on paye aujourd'hui ces erreurs des années 70, c'est clair.
Excusez-moi, un instant, j'entends, oui, un compteur Gégère. Encore une fuite, cette fois sur la centrale de Nogent, l'accident nucléaire. Bon, nous le savons, c'est un risque à courir, hein, mais pour les autres. Alors, au cas où cette alerte soit sérieuse, s'il vous plaît, nous avons prévu pour nos exposants un kit de survie avec des parachutes dorés. Et comme Nogent n'est qu'à 80 km de Paris dans ce cas, c'est 10 millions de personnes qui seraient directement concernées par cet accident. Heureusement, depuis la Convention de Paris, la responsabilité des opérateurs nucléaires est limitée à 91 millions d'euros, ce qui fait 9,10 € d'indemnité pour chacun d'entre vous. Mesdames et messieurs, nous allons devoir fermer prématurément notre salon WNE. Nous vous remercions pour votre participation et rassurez-vous, vos enfants et petits-enfants entendront encore longtemps, longtemps parler de nous. Encore longtemps, longtemps parler de nous.
Jean-Jacques Delfour, vous êtes philosophe, essayiste. Et là, vous êtes assez remonté contre le Salon mondial du nucléaire qui vient de se dérouler au Bourget. Vous l'avez appelé le World Nuclear Death Exhibition, le salon mondial de la mort du nucléaire. Comment vous traduiriez ça?
Écoutez, si c'était le cas, ce serait festif, mais c'était plutôt le salon mondial de la mort nucléaire. J'avais ça en tête parce que ce salon est une chose incroyable. Hein. Après Fukushima n'est pas, quand on dit après, on a tort. On doit dire depuis Fukushima, qui continue sans arrêt. Tchernobyl est aussi en activité, la catastrophe est toujours active. Et donc tous ces gens pensent qu'on peut faire de l'industrie comme si rien ne s'était passé. Alors que ce qu'a démontré l'affaire de Fukushima pendant 3 ans, c'est l'incompétence des ingénieurs, l'absence de technologie appropriée. Et donc depuis 3 ans, Fukushima, c'est la preuve, la démonstration que face à une catastrophe, ils n'ont rien prévu de solide, ils n'ont rien prévu de sérieux. Et d'ailleurs, un des arguments de vente des Japonais qui essayent de vendre des centrales nucléaires ailleurs, c'est que comme ils ont eu une catastrophe, ils sont prêts. Alors qu'en réalité, les réacteurs fondus sont toujours dans le sous-sol de l'archipel et personne ne sait comment les récupérer. Personne ne sait comment arrêter la radioactivité énorme, gigantesque, qui est répandue dans l'océan.
Dans cette tribune que vous avez co-signée avec Cézine Topchou, qui est historienne et sociologue des sciences, vous parlez d'irresponsabilité organisée.
En effet, très tôt dans les années 50, on s'est aperçu de la part des autorités nucléaires elles-mêmes qu'il y avait des dangers extraordinaires, et un rapport a été publié par Brockhaven, publié en 57, hein, comparé aux catastrophes réelles, qui étaient déjà très minimisées, mais en fait c'était la première fois qu'on le faisait. Les industriels du nucléaire qui ont dit il faut créer un régime juridique exceptionnel. Puisque c'est exceptionnel, le nucléaire, il faut un régime exceptionnel, et exceptionnel dans l'irresponsabilité, puisqu'au fond, tout ce qui a été fait depuis 1957, repris dans les pays européens par la Convention de Paris de 1960, c'est un effort juridique pour créer une irresponsabilité de droit. Quand on fait ça, on casse le rapport entre les risques et le dommage et le dédommagement et la sécurité. On enlève le maillon de la responsabilité, on n'a plus à dépenser d'argent pour la sécurité, à quoi bon, puisque en cas d'accident, on ne paiera pas. Ce dispositif juridique d'exception a rendu possible l'industrie nucléaire. Parce que si l'industrie nucléaire avait été soumise aux mêmes règles que les autres industries polluantes, personne n'aurait jamais mis un centime dans une entreprise aussi risquée, aussi coûteuse en cas de danger. Il y a une stratégie depuis 30 ou 40 ans que Cézanne Topchou a bien montré, l'énorme investissement en intelligence, en sondage, en argent, en fonctionnement d'EDF pour banaliser, pour rassurer massivement nos interventions dans les écoles, dans les établissements d'enseignement, dans les associations. Il y a un très large financement associatif qui permet de diffuser l'idée que finalement Areva, EDF, ce sont des gens gentils, aimables, sympathiques. Et donc il y a toute une propagande qui a été construite sciemment, volontairement, pour protéger l'industrie nucléaire, afin de protéger la source de l'industrie militaire, enfin du nucléaire militaire, c'est-à-dire le plutonium, qui permet de faire des bombes extrêmement efficaces.
Merci Jean-Jacques Delfour.
C'est moi qui vous remercie.
Alors Yuki Takahata, vous êtes japonaise, journaliste, vous habitez à Paris. Quelle est la situation aujourd'hui à Fukushima?
La situation n'est pas du tout maîtrisée. En fait, l'accident continue. Il y a maintenant, au début, c'était 3000 personnes par jour, enfin pendant assez longtemps. Maintenant, il y a 5800 personnes par jour. C'est énorme.
Qui travaillent sur le site.
Et c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Et ils sont fortement irradiés. Et comme ils sont irradiés, ils ne peuvent pas continuer pendant très longtemps. Donc, voilà. Vous voyez, on a besoin des gens qui vont être irradiés pendant de très longues années. Et le gouvernement dit que tout est sous contrôle. C'est vraiment mépriser toute la population qui souffre. Et l'accident continue. Et je voudrais qu'en France aussi, que les gens comprennent ce que cela signifie. Et alors que pour produire l'électricité, il y a d'autres moyens, beaucoup moins dangereux, et qui respectent plus la vie humaine. いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、物質に頼る文明を発達させるために破壊という科学を生み出して、戸惑う人々に対して自分たちの身勝手なヘリクツを定義つけるために宗教を操り、その裏でエネルギーを牛耳って、経済というお金のシステムを構築してきた代わりに偉大な能力を失ってしまった。 La situation n'est pas du tout maîtrisée. En fait, l'accident continue.
Et pour aller plus loin, la France nucléaire ou l'art de gouverner une technologie contestée de Cézine Topchou et aussi Avenir radieux, une fiction française, une pièce de théâtre d'investigation de Nicolas Lambert à l'affiche du Grand Parquet à Paris jusqu'au 2 novembre.
Comme un bruit qui court.
Alors, il n'y a pas que l'industrie du nucléaire qui vous propose un avenir radieux. Le Conseil général de Lozère, lui aussi, vous offre de belles perspectives. Vous aussi, votre nouvelle vie est en Lozère, clament fièrement les spots publicitaires de la campagne de communication du département qui a investi près de 600 000 euros pour attirer de nouveaux habitants et tenter d'endiguer la désertification rurale. Alors, quand deux familles, l'une tchétchène à Bar des Cévennes et l'autre arménienne à Florac, installées toutes deux depuis presque 4 ans, risquent d'être expulsées vers leur pays d'origine où elles courent de graves dangers, les habitants consternés se mobilisent. C'est le deuxième volet de notre reportage dans les Cévennes solidaires.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, mais...
Le comité de soutien à la famille sans papier de Barre des Cévennes vous remercie pour votre présence en soutien à la demande de régularisation de la famille D.
Une famille de plus de moins, ça ne se verra pas en France. Hein.
Je vais passer la parole à Patricia du réseau Éducation sans frontières.
Le préfet a la possibilité de les régulariser. Tout comme il peut régulariser les autres familles qui sont en Lozère. Et il faut lui rappeler, et lui rappeler souvent, et être nombreux pour montrer que nous les soutenons.
Moi aussi, on est tous à Meramzam. On a manifesté déjà pour que le préfet dise qu'ils peuvent rester parce qu'ils sont bien là-bas. On les aime.
Là, on est sur le marché de Florac. Florac, c'est la sous-préfecture de Lozère. Il y a la montagne, le clocher, il y a la petite rivière qui coule. Et on est avec Patricia Grimm de RESF qui tracte sur le marché pour une famille arménienne.
380 fois 8. Donc en ce moment, il y a 6 ou 7 familles qui sont en danger, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier et qui ont reçu des obligations de quitter le territoire français par la préfecture de la Lozère.
Et là, il y a donc un nouveau préfet, Guillaume Lambert, qui a été muté en Lozère récemment.
C'est vrai que depuis, on peut dire que nous, on trouve que la situation se durcit. Alors elle se durcit au niveau général en France et aussi en Lozère. C'est vrai qu'il y a eu la circulaire, qu'on dit circulaire Valls, sortie en novembre 2012. Et pour une famille, par exemple, elle demande 5 ans de présence en France. Les gens que nous suivons, c'est des gens qui ne rentrent pas dans ces critères. La famille de Barre des Cévennes, par exemple, ils auront bientôt 4 ans. Une autre famille qui a un petit peu plus de 4 ans, il y en a qui ont 3 ans et demi. Donc là, on nous dit, ben non, c'est pas possible, ils ne correspondent pas aux critères de la circulaire.
À quelles conditions faut-il régulariser les immigrés clandestins en France? Le sujet est sensible. Eh bien, Manuel Valls vient de dévoiler sa réforme.
Il n'y a pas d'appel d'air.
Cette régularisation ne sera plus au cas par cas, mais avec des critères. 30 000 personnes seraient concernées chaque année.
Cette circulaire ne permet pas une régularisation massive.
Dorénavant, pour obtenir une carte de séjour, il faudra pour une famille habiter en France depuis au moins 5 ans et avoir un enfant scolarisé depuis 3 ans.
La dame, elle dit à la télé, on voit les gens en ville qui rouspètent contre les étrangers.
Oui, mais c'est vrai que nous devons regarder. On les connaît bien, ils sont avec nous, là. Oh, même ils voudraient travailler, hein.
Bonjour.
Oui, bonjour monsieur. Je souhaiterais solliciter un entretien téléphonique avec le préfet.
Je vous l'appelle.
Je lui pose la question, je vous rappelle.
Je vous remercie. Alors, on voulait joindre Guillaume Lambert, préfet de Lozère. Mais Guillaume Lambert, qui était également directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, risque très fortement d'être très prochainement mis en examen dans l'affaire Big Malion. On comprend qu'il n'est pas tout à fait le temps de nous prendre au téléphone. C'est donc Marie-Paul de Miguel que nous allons appeler.
Un opérateur va traiter votre appel.
Allô ?
Oui, bonjour madame.
Donc, je suis la secrétaire générale de la préfecture de la Lozère. Au regard du droit au séjour, si vous voulez, des étrangers, 4 années, c'est une période assez courte pour justifier d'une stabilité des liens. Bon, et la circulaire de Manuel Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, m'a demandé au préfet de prévoir une durée minimale de 5 ans, sauf cas exceptionnel. Le préfet, il lui est arrivé de régulariser pour des motifs exceptionnels, mais qui sont souvent des motifs, justement, qui ne peuvent pas se retrouver dans un maximum de situations, sinon il n'y aura pas de caractère exceptionnel.
450 habitants dans les rues de Bar-des-Cévennes.
C'est un élément. Le préfet n'a pas du tout nié cet élément qui est encore une fois l'argument principal du comité de soutien en disant c'est très exceptionnel parce que finalement c'est dans une petite commune qui finalement a aussi besoin d'accueillir de nouvelles populations. Mais le préfet a aussi d'autres demandes ailleurs qu'à Bar-des-Cévennes. Donc le caractère exceptionnel devra être bien justifié.
Et juste alors une dernière chose, lors de la rencontre avec donc le préfet, les associations et le comité de soutien, il a été question d'une autre famille, elle installée à Florac, la famille...
Saint-Darian, oui. Pour cette famille dont vous parlez, on est intervenu différemment, c'est-à-dire qu'on a considéré, le préfet a considéré que le père pouvait repartir au pays. On lui a même permis d'obtenir un passeport.
C'est l'Arménie.
Voilà, c'est ça. Je comprends qu'il y a une vraie réticence pour la personne à repartir, mais bon, voilà, la durée minimale de 5 ans, elle est quand même inscrite dans, j'ai envie de dire dans la circulaire, mais même dans la jurisprudence. Voilà, donc la famille Sardarian a vocation à repartir au pays. C'est tous les députés de droit d'asile ont des arguments qu'ils considèrent comme exceptionnels. Finalement, les textes et le code des étrangers n'a pas lieu d'être, quoi. Voilà.
Donc là, on est sur la place du marché à Florac. Vous appelez comment ?
Je m'appelle Lilith. Je suis arménienne. Depuis ici à peu près 4 ans, 3 ans et 6 mois.
Votre mari s'appelle comment ?
Serop.
Et votre fille ?
Hélène. Hélène, 14 octobre, 4 ans. Et notre fils, 11 ans.
Vous avez un fils de 11 ans aussi ?
Oui.
Il est où là ?
Arménien, mon parrain.
Chez vos parents en Arménie ?
Oui.
Vous êtes séparée de votre fils depuis 4 ans ?
Oui.
Pourquoi vous êtes partie d'Arménie ?
Parce que problème, mon mari, problème de politique. Grand problème.
Qu'il était opposant ?
Il était oui, à l'époque, il n'était pas opposant. Il tenait le bureau de vote et les gens du président actuel sont venus pour brûler les urnes. C'est ce qui a déclenché tout, quoi. Donc ils l'ont sorti, ils l'ont tabassé, il est parti dans le coma, il a été hospitalisé. On voit, tout a démarré de là, quoi. Donc on n'est pas du tout décidé à l'aider à aller se faire tuer en Arménie. Surtout que le préfet pourrait très bien prendre la décision de leur donner un titre de séjour qui leur permettrait de travailler à tous les deux. Je ne comprends pas son attitude, surtout en Lozère. Alors que le département fait un effort énorme pour avoir des travailleurs qui viennent en Lozère, le conseil général a mis 600 000 euros pour faire venir des gens. Et là, on a des gens qui sont là, qui veulent travailler, et on va les renvoyer en Arménie se faire tuer ou se faire mettre en prison. C'est aberrant comme situation.
Votre nouvelle vie est en Lozère.
Voilà, c'était Georges Lebris, adjoint au maire à Saint-Laurent-de-Trèves, près de Florac, et parrain de la petite Hélène, la fille de Lilith et ses robes. Un comité de soutien à la famille Sardarian s'est créé à la demande des habitants de Florac pour les soutenir. Toutes les informations sont sur le site du réseau Éducation sans frontières de la Lozère.
Au fond de l'heure, le coin des bidouilleurs, direction la lutherie urbaine, un laboratoire sonore et musical.
Bagnolet, Lulle, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire lutherie urbaine, le local.
D'accord, le local de la lutherie urbaine. Alors, c'est quoi la lutherie urbaine ?
Lutherie urbaine, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années et on travaille sur la recherche instrumentale, la recherche sonore, la création musicale, les performances sonores.
Voilà, le laboratoire sonore Lutrie Urbaine.
Bonjour.
Antoine. Je suis Thérèse Dufour, responsable de l'association.
Ah, c'est vous qui êtes responsable.
Oui, j'essaye de l'être.
D'accord, de tout ce détournement d'objets.
Voilà, imaginer une nouvelle instrumentation.
Vous appelez ça un laboratoire sonore?
Parce que beaucoup d'équipes sont dans la recherche sonore. Il y a Thierry Madio, notamment Étienne Bultinguer, qui sont les co-directeurs artistiques, qui sont dans les arts sonores, installations sonores. Mikonissime, donc, qui est l'un des pianistes qui accepte de jouer le jeu sur ce pianoctel qui est construit de briquet de broc, de roues de vélo, d'un vieux clavier.
Et là, vous accueillez une classe, et ça, c'est une scolaire, hein, cet après-midi.
Là, c'est une scolaire, c'est une classe qui travaille avec nous aussi sur des explorations sonores par ailleurs.
Et comment s'appelle alors? C'est une harpe?
Ça, c'est l'arbre à son.
L'arbre à son d'Étienne Bultinguer, donc.
Vous me suivez?
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, je m'appelle Yann Amin.
Bonjour, monsieur.
Assalamu alaikum.
Alors, on va y aller doucement. Allez, on passe.
Il sort des tuyaux.
Avec le pianoctel, un instrument visiblement de la famille des pianos.
C'est moi qui joue le pianoctel.
Pianoctel.
Voilà, parce voilà. Que, comme vous le savez, le mot pianoctel a été inventé par Boris Vian dans l'écume des jours. Et dans ce cadre-là, il fabriquait des parfums et des alcools. Donc la lutherie urbaine, Benoît Poulain qui l'a fabriqué, a décidé de l'appeler de ce nom-là, puisque au fond, c'est une espèce d'amalgame, de cocktail, de son. Alors dans le grave, vous avez les trompes. Ils sont actionnés par un compresseur. Et un peu plus haut, vous avez les tambours. Voilà une soufflerie qui fait du bruit avec de l'eau, avec un sifflet en haut pour ajouter. Une roue de la fortune qui fait des bruits.
À quoi ça sert le truc bleu et le truc vert
et puis pour faire le tout,
le truc bleu.
Et on peut se former au LUL, Lutherie Urbaine Le Lieu, à Bagnolet. Des formations professionnelles au déformatage, ça se tente. Mais aussi toute une programmation que vous trouverez sur le programme et sur notre site. Et aussi des massages sonores.
Merci à toutes et à tous. Comme un bruit qui court était réalisé par Jérôme Chélius, assisté de Karen D. Et avant de nous retrouver samedi prochain, retrouvez-nous avant sur le site franceinter.fr pour les liens, les références, les podcasts et vos réactions, mais aussi sur les réseaux sociaux avec un mot d'ordre Maudiez. Comme un bruit. Juste après le flash, retrouvez camarades Colin et Mauduit pour Si l'Amérique m'était comptée.
Et je profite des quelques secondes qui nous restent pour vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, c'est Anaëlle Verzo que vous retrouverez avec Guy Vanctil et Antoine Chao dans Comme un bruit qui court. Pour ma part, je m'absenterai quelques mois pour préparer une arrivée. Une heureuse arrivée, vous m'aurez comprise. Alors, on ne sait pas encore comment il s'appellera, ni quelle tête il aura, et encore moins ce qu'il fera plus tard, quand il sera grand. On sait seulement que c'est un garçon, et que sa venue est annoncée pour fin novembre. Voilà, j'aurai donc plaisir à vous retrouver dans le courant de l'année prochaine.